Qu'est-ce qui vient? Qui est-ce qui vient? Qu'est-ce que nous rappelle la bougie allumée? Cet été, je me suis cassé le poignet. Et après l'opération, j'ai dû me rendre plusieurs fois à l'hôpital pour contrôle de la plaie, etc. Et fait assez exceptionnel, j'ai utilisé les transports en commun. C'était une expérience presque nouvelle. Je pense que ça faisait peut-être 20 ans que je n'avais pas pris le train. 30 ans peut-être même. Donc j'ai pris le train depuis Versoix et puis le bus pour arriver à l'hôpital. Et pour arriver à l'heure, parce que quand on a un rendez-vous, il vaut mieux arriver à l'heure, j'ai consulté l'horaire des CFF et puis j'ai quitté mon chez-moi et à la gare, j'ai attendu sur le quai, plein de confiance dans la réputation des CFF et dans la fiabilité de l'horaire. Et je n'ai pas été déçu. Attendre ce qui arrive, ça repose sur la confiance. J'attends le train qui va venir parce que j'ai confiance dans les CFF, dans leur réputation, dans l'horaire. Et de la même manière, l'avant est un temps d'attente qui repose sur la confiance. J'attends Jésus, mon Sauveur, qui vient, et c'est Noël. J'attends Christ, mon Roi, pour qu'il règne sur ma vie. J'attends Jésus-Christ, le Seigneur, qui vient rétablir toutes choses et essuyer toutes larmes. Et mon attente, cette attente, notre attente, repose sur la foi. Et je vous propose de dire notre foi. C'est difficile de la dire tous ensemble, alors on va la chanter. Nous allons chanter ce chant qui dit « Nous croyons en Dieu le Père, Créateur de l'univers, en son Fils Jésus-Christ ». C'est le numéro 371.
Je lis un premier texte dans Ésaïe, chapitre 9, versets 1 à 6. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends la nation nombreuse, tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout manteau roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Renforcez la souveraineté et donnez une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées.
Le deuxième texte est dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5. Vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive au sujet des temps et des moments où ces événements se produiront. Car vous savez très bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi imprévisible qu'un voleur pendant la nuit. Quand les hommes diront « Tout est en paix et en sécurité », c'est alors que tout à coup, la destruction s'abattra sur eux. Ils n'y échapperont pas, ce sera comme les douleurs de l'accouchement qui saisissent une femme enceinte. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité, et ce jour ne doit pas vous surprendre comme un voleur. Vous tous, en effet, vous appartenez à la lumière, vous appartenez au jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni de l'obscurité. Ainsi, nous ne devons pas dormir comme les autres, mais nous devons rester éveillés et sobres. C'est la nuit que l'on dort et c'est la nuit que l'on s'enivre. Mais nous, nous appartenons au jour et nous devons être sobres. Nous devons porter la foi et l'amour comme une cuirasse et notre espérance du salut comme un casque. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Car le Christ est mort pour nous, afin que nous vivions avec lui, que nous soyons vivants ou morts quand il viendra. Ainsi, encouragez-vous et fortifiez-vous les uns les autres, comme vous le faites déjà.
Seigneur, nous nous souvenons de ta venue. Te bénissons de la manière que tu es venu. Nous croyons que tu reviendras. Et en attendant, nous te prions d'ouvrir nos cœurs, de nous rendre réceptifs à ce que tu veux nous dire dans cette attente. Nous invoquons le secours de ton esprit, afin que nous puissions entendre ta voix ensemble ce matin. C'est en ton nom que nous prions, Seigneur. Amen. L'Avent. Comme calendrier de l'Avent, ce n'est pas le top, mais j'espère que ça va évoluer. C'est un peu schématique, mais la Bible nous dit qu'au début, ce n'était pas les ténèbres qui étaient appelées à régner. En fait, la Bible ouvre avec une toute autre perspective, c'est-à-dire de l'éclat de lumière de la joie, la splendeur de la création. Et puis, la Bible dit très rapidement qu'en fait, il y a eu extinction de la lumière quand l'homme, la créature, a écouté ce que un autre prince, le prince des ténèbres, a souffleté. Et depuis, il y a toute une série de conséquences à ce fait. Mais ce matin, nous voulons célébrer la venue de la lumière. Il y a deux royaumes qui sont superposés. C'est le message du Seigneur Jésus dans beaucoup de paraboles, dans beaucoup de ses enseignements. Deux royaumes qui sont superposés. Il est venu pour apporter la lumière dans le monde, mais les ténèbres subsistent. En fait, le peuple juif leur attend, c'était la venue du Messie, allez faire ça. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait ça qui s'est passé, ni ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, quand est-ce que le peuple qui vit dans les ténèbres, quand est-ce qu'il va voir une grande lumière? Pour quand le jour du Seigneur? C'est un peu notre sujet de ce matin. Qu'est-ce qui se passe et se passera dans l'avenir? Ça a préoccupé beaucoup de monde. On a entendu peut-être que ce monde va arrêter le 21 de ce mois. Selon les interprètes de ce calendrier Maya, paraît-il, les futurologues ne manquent pas d'idées, surtout dans les évolutions du monde de l'économie et autres. Les astrologues non plus. Il y a toute une industrie pour parler de l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, nous, en tant que chrétiens, on est appelés à s'y intéresser également. Alors, mais vous allez me dire, mais on s'y intéresse beaucoup moins qu'il fut un temps. On n'en parle pas beaucoup de nos jours. Peut-être pour certains d'entre vous, dans votre jeunesse, l'idée du retour du Seigneur, mais son retour était imminent. L'Hitler n'était-il pas l'Antichrist? Le retour du peuple juif en Palestine, c'était un signe clair dans l'horloge, que l'horloge avançait. Et puis, vous savez comme moi qu'il y avait toute une série de publications prophétiques, certaines d'entre elles très osées. Un ami a dit par rapport à telle association qu'il proposait, annonçait que tel oiseau allait atterrir sur tel arbre. Mais à Lindsay, dans son livre, il a décrit très clairement comment les choses allaient se passer. Si on lit ses livres aujourd'hui, on découvre que les choses ne sont pas passées comme il a dit. Ce qui nous a entraînés souvent au silence concernant l'avènement du Seigneur. Ce qui est dommage parce que le Nouveau Testament, on parle du retour du Seigneur Jésus-Christ environ 300 fois. C'est-à-dire 10 fois plus souvent que la Bible parlait de sa première venue. Dans tous les cas, Paul en a parlé, l'apôtre Paul qui a écrit cette lettre, en a parlé à ces chrétiens qui se trouvaient dans la ville de Thessalonique. Il a parlé, verset 2 et verset 4, du jour du Seigneur. En ce qui concerne ces événements, C'était le sujet du chapitre 4. Il a voulu les rassurer parce qu'il se demandait, mais ceux qui sont déjà morts, est-ce qu'ils ont passé à côté de cet événement? Est-ce qu'ils seront pénalisés? Non, dit l'apôtre, qui veut les rassurer. Un signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts, unis au Christ, ressusciteront en premier lieu. Maintenant, dans notre chapitre, il écrit pour répondre à un deuxième souci qu'ils avaient. Et si on est encore vivant à ce moment-là, comment les choses vont se passer? Et là aussi, il veut les rassurer. Vous avez entendu la conclusion du passage. Encouragez-vous les uns les autres, comme vous le faites déjà. Il se veut rassurant. Alors, de quoi s'agit-il le jour du Seigneur? Ce n'est pas une invention de l'apôtre Paul, ni du Nouveau Testament. Il a sans doute enseigné Paul, quand il était de passage dans leur ville, comment un jour Dieu interviendra pour écarter le péché et tous ceux, selon la phrase dans sa deuxième lettre, tous ceux qui y prennent plaisir. Un jour de jugement des ténèbres, suite à maintes avertissements. Avertissements qui se faisaient dans l'Ancien Testament par des invasions, par des événements naturels, la descente des sauterelles dans le pays, et c'était des images de ce grand jour qui viendra un jour. Pour le peuple, sous-entendu le peuple juif de l'époque, c'était quand Dieu interviendra pour mettre Israël à la tête des nations. Peu importe leur fidélité ou non. Et Dieu a envoyé ses prophètes, Amos, Joël, Ésaïe et d'autres, pour corriger cette idée erronée. Et maintenant, pour le Nouveau Testament, le jour du Seigneur, c'est le jour où Dieu visitera le monde dans la personne de son Christ, pour mettre fin à quoi? À cet âge. Parce que la Bible parle non pas des temps linéaires, mais des âges. Ça, c'est l'âge présent, ça, c'est l'âge à venir. Et pour le moment, ils sont superposés. J'espère que tout ça deviendra clair. Le présent mauvais n'est pas définitivement installé. L'âge à venir viendra pour être la seule réalité dans un moment à venir. Donc, ce n'est pas notre réalité, mais au moment présent, c'est ceux qui se sont repentis et ont accueilli la lumière qui en feront partie. Ceux qui ont préféré les ténèbres se trouveront exclus. C'est le message concernant la venue du royaume. Comment réagir devant cette réalité? Alors, l'idée des Thessaloniciens, c'est clair, c'est simple. Si on sait la date, on saurait quand il faut s'y préparer. c'est pour quand? Le problème, c'est ce jour viendra comme un voleur. Et les voleurs n'annoncent pas le jour de leur arrivée. Le jour sera soudain, inattendu, comme la venue d'un voleur, inévitable, incontournable, comme les douleurs de l'enfantement sur la femme enceinte. Alors, si la mauvaise solution, c'est chercher à savoir quand, c'est leur première question. Quelle est la bonne solution? Et c'est la suite, les versets 4 et 10, qui vont nous dire, veillez à être prêts. Pas savoir quand, veillez à être prêts. Alors, comment être prêts? Je crois que c'est dans la mémoire de nous tous que le 31-12-99, il y avait une inquiétude, certaine incertitude si ça allait pas être la fin du monde. Certains, en tout cas, s'attendaient à cela. Dans notre famille, on s'attendait à autre chose parce que début 2000, j'avais une tante qui s'apprêtait à célébrer ses 100 ans. Et en tant que famille, on avait organisé une fête pour le mois de février où elle avait son anniversaire. En réalité, les deux événements n'ont pas eu lieu. Ni la fin du monde, ni les 100 ans de ma tante, parce qu'elle est décédée 15 jours avant. Mais on a quand même décidé d'aller de l'avant dans les retrouvailles de la famille. Donc, on venait d'arriver au Locle, dans le canton de Neuchâtel. On s'y était installé, notre appartement, voilà, c'est là où on vivait depuis peu. Mais j'avais pas encore la nationalité suisse, parce que quand on vivait en France, avant, membre du marché commun, je voyais pas l'utilité depuis ces choses faites. Voilà. Mais à l'époque, non. Donc, nous prenons notre vol avec EasyJet, Genève, Londres, et bien sûr, on a pris un aller-retour parce que nous habitons au Locle. Nous vivons notre fête de famille, et puis nous retournons à l'aéroport à Londres pour reprendre le vol EasyJet Londres-Genève. Et au moment de passer le contrôle, on me dit que je peux pas passer. Ils veulent pas me laisser monter dans l'avion. Les autres passagers, oui, passent sans problème. Moi, non, il faut que je me mette à côté et je ne passe pas. Pourquoi? Ils m'ont dit, mais il faut un billet aller-retour, Londres, Genève, Londres. Parce que j'avais pas de nationalité suisse. Interdit de départ. J'avais beau leur expliquer que j'habitais en Suisse. Ça changeait rien du tout. Ils me laissaient pas monter dans l'avion. Parce que je n'appartenais pas au peuple élu. J'appartenais au mauvais royaume. C'est véridique. Bien sûr, vous avez compris, c'était selon la législation en vigueur de Schengen. Dans notre texte, l'apôtre Paul fait une distinction claire. Vous, mes frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour, nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Être prêt pour le départ, ce n'est pas une question d'agenda. Moi, j'étais à l'heure. C'est une question d'appartenance. Si on appartient au mauvais royaume, on n'accédera pas au monde nouveau. Si on a accueilli la lumière, on appartient au nouveau royaume qui subsistera éternellement. La lumière est venue dans le monde. C'est par elle que le monde fut créé. Elle est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Pourtant, le monde a été fait par elle. Mais à tous ceux, celles qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux qui sont nés non pas de la volonté humaine, ni du sang, mais de Dieu. Vous êtes tous, Paul veut les rassurer, enfants de la lumière, enfants du jour. C'est le fait d'appartenir à la lumière et non pas aux ténèbres qui décidera que vous partez ce jour-là. Nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. C'est le fait d'appartenir à la lumière et notre réponse à la lumière qui dicte nos orientations d'aujourd'hui. Et ce n'est pas nos orientations qui fait qu'on est dans la lumière ou non. Mais chaque fois que le Nouveau Testament parle du retour du Seigneur dans cette attente, il va dire les implications d'appartenir. Jésus, dans les évangiles, va dire ce que devait être notre vie parce qu'on est du royaume de la lumière. Paul va le dire aux Thessaloniciens, qui vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé, que par sa puissance il fasse aboutir tous vos désirs de faire le bien. Il a dit au chapitre 4 comment devait être notre vie dans la lumière. L'apôtre Pierre le dira dans ses écrits comment on devait vivre dans cette attente. Je vous lis un exemple. Qu'il fuit tout ce qui est mal et qu'il fasse le bien et recherche la paix avec ténacité. Vous vous souvenez ce qu'a écrit l'apôtre Jean? Voyez de quel amour le Père vous a aimé. Il vous a appelé enfant de Dieu, et c'est ce que vous êtes. Et puis, il continue, et celui qui a cette espérance se purifie comme le Seigneur est pur. C'est une sorte de promesse, vous serez saint, car je suis saint. Et c'est à nous de permettre ou non, que la lumière brille plus ou moins fortement. Alors, à Thessalonique, ils avaient d'autres soucis. Qu'est-ce qui les préoccupait? S'ils allaient être surpris, quelle est la réponse de l'apôtre Paul? Quand j'étais tout petit, des amis de mes parents ont vécu un cambriolage. Je m'en souviens parce qu'il y a une seule chose dans le récit qui m'avait impressionné, c'est-à-dire que les voleurs, quand ils sont allés de nuit chez ses amis, ils se sont fait une tasse de thé. Le matin, quand ils se sont descendus, ils ont constaté qu'il y avait la théière et les tasses de thé qui étaient là dans la cuisine. Donc, pas difficile pour la police de savoir l'origine des voleurs. Mais le problème, c'était qu'ils étaient tellement endormis, ils n'ont rien su. Donc, Paul dit aux Thessaloniciens, il faut rester éveillé. Et il ne faut pas être en souci parce que le chrétien averti reste éveillé. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres. Dormir parle de l'indifférence de ce jour. Et être sobre est une question de ne pas tomber dans des excès qui nous sont proposés par tout ce qui représente le monde actuel. Vivez en conséquence, dit Paul. Brillez comme des flambeaux dans ce monde sombre. Nous sommes la lumière du monde. Restons éveillés. Et j'ai dit que l'apôtre Paul veut encourager. Quand on parle du fin du monde, ruine, détresse, persécution, tribulation, antichrist, c'est pas très rassurant. Est-ce que je tiendrai bon? Et c'est là la conclusion de notre passage, parce que la question essentielle, c'est pas est-ce que je tiendrai bon, mais qui est ce Dieu qui me tient, qui va manifester sa colère contre tout ce qui cherche à détruire sa création? La réponse, ce Dieu-là, et le Dieu qui est venu nous sauver. C'est le même Dieu qui vient nous chercher. Je lis le verset 10. Il est mort pour nous afin que, vivant ou mort, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est ce qu'il a fait pour nous. À notre place, le salaire que paye le péché, la mort, il a subi en sa personne. Pourquoi? La réponse est au verset 9. Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que nous entrions dans sa gloire. Au lieu de la colère qui va tomber sur tout ce qui est ténèbres, nous avons la paix avec Dieu. Au lieu de la condamnation, Jésus nous offre un plein pardon. Il est mort afin que nous, nous puissions vivre. Notre appartenance donc n'est pas fondée sur le sable mouvant de notre performance, mais notre appartenance dépend du rocher solide du dessein de Dieu. Il ne nous a pas destinés à la colère, mais à posséder le salut, rendu public et accompli une fois pour toutes à la croix. Le reconnaître, l'accueillir, c'est changer de royaume. C'est ça, s'ouvrir à la lumière, à Jésus. Et le changement de royaume entraîne un changement de comportement. C'est la conséquence et non pas la condition. Deux âges donc. Deux âges. Dieu merci, le royaume de ce monde avec son prince n'a pas le dernier mot. Sa main mise sur la création arrivera à son terme. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, le Christ, est venu pour être la lumière du monde et pour éclairer toute personne qui vit dans les ténèbres. Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Elle est venue pour éclairer toute personne qui souffre à lui. Si les deux âges sont actuellement superposés, ils ne sont pas appelés à coexister éternellement. Dieu a entendu les cris. Il est descendu pour voir et pour agir, pour apporter la connaissance de la lumière. Au prix de sa vie. Le prince de ce monde résiste tout ce qu'il peut et cherche à garder le dessus. L'issue finale sera scellée par le retour glorieux du roi qui revient. Quand? On ne sait pas. Mais le jour s'approche. Est-ce que nous sommes prêts? Cela ne dépend pas de la date de l'événement. Ça dépend de notre appartenance, la bonne nationalité. Si on est de cet âge-là, on sera pris de court. Si on s'est tourné vers la lumière en Jésus, en entendre entrer dans la joie de ton maître. Il viendra pour être en ce jour-là honoré dans la personne de ceux qui lui appartiennent, admiré dans la personne de tous les croyants. Deux âges, une date inconnue, un choix, une décision, une réponse à donner. La lumière est venue dans le monde. Elle n'a pas été accueillie, mais tous ceux, celles qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous êtes tous enfants de lumière, enfants du jour en Jésus, dit l'apôtre Paul. Amen.
Lumière du monde venue dans l'obscurité. je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est